to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Alors, on vous l'a dit et répété, aujourd'hui, Transistor fête ses 7 ans. L'occasion pour nous de revenir sur quelques exemples d'anniversaires littéraires agrémentés de petites virgules musicales en guise de cotillons et de serpentins. La célébration des anniversaires, encore que relativement récente sous la forme qu'on lui connaît, est en effet une composante essentielle de notre vie sociale et mérite à ce titre l'attention que nombre d'auteurs ont pu lui porter. À nous donc de faire entendre leur voix dans la nôtre, et aujourd'hui je suis accompagné par deux camarades dans cette aventure où l'ancienne génération se joint à la nouvelle. Bonjour Héloïse, bonjour Alice.
Bonjour.
Bonjour.
Alors difficile d'évoquer l'anniversaire en littérature sans évoquer le fameux lieu commun du non-anniversaire, événement célébré n'importe quel jour de l'année sauf celui de votre anniversaire. Le fameux néologisme a été créé par Lewis Carroll dans son roman « De l'autre côté du miroir » publié en 1871 et qui fait suite aux aventures d'Alice au Pays des Merveilles.
« Quelle belle ceinture vous avez !» dit Alice tout d'un coup. Elle jugeait qu'ils avaient suffisamment parlé de son âge et, s'ils devaient vraiment choisir un sujet à chacun leur tour, c'était à son tour à elle, à présent. « C'est une cravate, mon enfant, et une très belle cravate, comme tu l'as fait remarquer toi-même. C'est un cadeau du roi blanc et de la reine blanche. » « Que penses-tu de ça ?»« Vraiment ?» dit Alice, toute heureuse de voir qu'elle avait choisi un bon sujet de conversation. « Ils me l'ont donné, » continua le gros cocon d'un ton pensif, en croisant les jambes et en prenant un de ses genoux à deux mains, comme cadeau de non-anniversaire. « Je vous demande pardon ?» dit Alice, très intriguée. « Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'un cadeau de non-anniversaire ?»« C'est un cadeau qu'on vous donne quand ce n'est pas votre anniversaire. » Alice réfléchit un moment. « Je préfère les cadeaux d'anniversaire, » déclara-t-elle enfin. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » s'écria le gros cocon. « Combien de jours y a-t-il dans l'année ?»« 365. »« Et combien d'anniversaires as-tu ?»« Un seul. »« Et si tu ôtes un de 365, que reste-t-il »« 364, naturellement. » Le gros coco prit un air de doute. « J'aimerais mieux voir ça écrit sur du papier, » déclara-t-il. Alice ne put s'empêcher de sourire, tout en prenant son carnet et en faisant la soustraction. 365 moins 1 égale 364. Le gros coco prit le carnet et regarda très attentivement. « Ça me paraît très bien, » commença-t-il. « Vous tenez le carnet à l'envers, » s'exclama Alice. « Ma parole, mais c'est vrai, » dit gaiement le gros coco, tandis qu'elle tournait le carnet dans le bon sens. Ça m'avait l'air un peu bizarre. « Comme je le disais, ça me paraît très bien. » Quoique, je n'ai pas le temps de vérifier. Et ça te montre qu'il y a 364 jours où tu pourrais recevoir des cadeaux de non-anniversaire. Bien sûr. Et un seul jour pour les cadeaux d'anniversaire. Voilà de la gloire pour toi. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Le gros cocon prit un sourire d'un air méprisant. Naturellement. Tu ne le sauras que lorsque je te l'aurai expliqué. Je voulais dire, voilà un bel argument sans réplique. Mais gloire ne signifie pas un bel argument sans réplique. Quand, moi, j'emploie un mot, déclara le gros cocon d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus, ni moins. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Alice fut beaucoup trop déconcertée pour ajouter quoi que ce fût. Donc, Lewis Carroll, bien sûr. Donc restons aussi maintenant dans l'univers de l'enfance. Et cette fois, c'est un petit garçon qui va se retrouver dans un désarçonnant anniversaire entouré de créatures étonnantes.
Aujourd'hui, j'ai été invité à l'anniversaire de Marie-Edwige. Marie-Edwige est une fille, mais elle est très chouette. Elle a des cheveux jaunes, des yeux bleus, elle est toute rose et elle est la fille de Monsieur et Madame Courteplaque qui sont nos voisins. Monsieur Courteplaque est chef de rayon des chaussures au magasin du Petit Épargnant et Madame Courteplaque joue du piano et elle chante toujours la même chose, une chanson avec des tas de cris qu'on entend très bien de chez nous, tous les soirs. Maman a acheté un cadeau pour Marie-Edwige, une petite cuisine avec des casseroles et des passoires, et je me demande si on peut vraiment rigoler avec des jouets comme ça. Et puis maman m'a mis le costume bleu marine avec la cravate, elle m'a peigné avec des tas de brillantines, elle m'a dit que je devais être très très sage, un vrai petit homme, et elle m'a accompagné jusqu'à chez Marie-Edwige, juste à côté de la maison. Moi j'étais content parce que j'aime bien les anniversaires et j'aime bien Marie-Edwige. Bien sûr, on ne trouve pas à tous les anniversaires des copains comme Alceste, Geoffroy, Eudes, Rufus, Clotaire, Joachim ou Mexin, qui sont mes copains de l'école, mais on arrive toujours à s'amuser. Il y a des gâteaux, on joue aux cow-boys, aux gendarmes et aux voleurs, et c'est chouette. Je suis entré dans la maison de Marie-Edwige, et là, il y avait deux filles avec des robes pleines de plis. Elles s'appelaient Mélanie et Eudoxie, et Marie-Edwige m'a dit que c'était ses deux meilleures amies. On s'est donné la main, et je suis allé m'asseoir dans un coin, sur un fauteuil, pendant que Marie-Edwige montrait la cuisine à ses meilleures amies, et Mélanie a dit qu'elle en avait une comme ça, en mieux. Mais Eudoxie a dit que la cuisine de Mélanie n'était sûrement pas aussi bien que le service de table qu'elle avait reçu pour sa fête. Elles ont commencé à se disputer toutes les trois, et puis on a sonné à la porte, plusieurs fois, et des tas de filles sont entrées, toutes avec des robes pleines de plis, avec des cadeaux bêtes. Il y en avait une ou deux qui avaient amené leurs poupées. Le goûter n'était pas mal. Il y avait des petits biscuits, du chocolat, et on a apporté un gâteau avec des bougies, et Marie-Edwige a soufflé dessus, et elles ont tout applaudi. Moi c'est drôle, j'avais pas très faim. Pourtant, à part le petit déjeuner et le dîner, c'est le goûter que je préfère. Presque autant que le sandwich qu'on mange à la récré. Les filles, elles, mangeaient bien, elles parlaient tout le temps, tout à la fois. Elles rigolaient, elles faisaient semblant de donner du gâteau à leur poupée. Et puis, à un moment, Madame Courteplaque a dit que nous allions passer au salon. Et moi, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil du coin. Après, Marie-Edwige, au milieu du salon, les bras derrière le dos, a récité un truc qui parlait de petits oiseaux. Quand elle a fini, nous avons tous applaudi et Madame Courteplaque a demandé si quelqu'un d'autre voulait faire quelque chose, réciter, danser ou chanter. Nicolas peut-être, a demandé Madame Courteplaque. Un gentil petit garçon comme ça connaît forcément une récitation. Moi j'avais une grosse boule dans la gorge et j'ai fait non avec la tête, et elles ont toutes rigolé parce que je devais avoir l'air d'un guignol avec mon chapeau pointu. Pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes petites camarades, m'a demandé Madame Courteplaque. Moi je l'ai regardé sans rien dire, alors Madame Courteplaque a battu des mains et elle a crié « Ah, je sais ce que nous allons faire, une ronde, moi je vais jouer du piano et vous allez danser ». Je ne voulais pas y aller, mais Madame Courteplaque m'a pris par le bras, j'ai dû donner la main à Blandine et à Eudoxie, et nous nous sommes mis tous en rond, pendant que Madame Courteplaque jouait sa chanson au piano et nous nous sommes mis à tourner. J'ai pensé que si les copains me voyaient, il faudrait que je change d'école. Et puis on a sonné à la porte, c'était maman qui venait me chercher, j'étais drôlement content de la voir. « Nicolas est un chou !» a dit Madame Courteplaque à maman. « J'ai jamais vu un petit garçon aussi sage. Il est peut-être un peu timide, mais de tous mes petits invités, c'est le mieux élevé. » Maman a eu l'air un peu étonnée, mais contente. À la maison, quand papa est arrivé, il m'a regardé et a demandé à maman ce que j'avais. Il a dit que je suis très fière de lui, a dit maman. Il est allé à l'anniversaire de la petite voisine et était seul garçon invité, et Madame Courteplaque m'a dit que c'était lui le mieux élevé. Papa s'est frotté le menton, il m'a enlevé mon chapeau pointu, il a passé sa main sur mes cheveux, il s'est essuyé la brillantine avec son mouchoir, et il m'a demandé si je m'étais bien amusé. Alors moi, je me suis mise à pleurer. Papa a rigolé, et le soir même, il m'a emmené voir un film plein de cow-boys qui se tapaient dessus et qui tiraient des tas de coups de revolver. Un anniversaire, Goscinny et Sempé l'ont compris avec le petit Nicolas, c'est le moment de faire des surprises et de se retrouver avec nos proches. C'est souvent la famille et les amis qu'on invite pour partager un moment chaleureux, c'est ce que Pénac dans Monsieur Malocène s'emploie à faire ressentir. Ce bonheur d'être entouré par les siens, mais toujours en nous surprenant.
On ne devrait jamais jouer au jeu de la surprise avec Jérémy. En fait de surprise, il a toujours eu plusieurs longueurs d'avance sur la vie elle-même. Sa naissance déjà. Maman attendait deux filles, tous les oracles convergeaient. La faculté était formelle, le caducée unanime, des jumelles. Mais ce fut Jérémy, tout seul et joyeusement gueuleur. Il avait dû bouffer les filles. Quand les portes du Zerbe s'ouvrirent, enfin, et que je m'avançais, smoking et charentaise, ma star préférée au bras, sûre de mon effet, ce fut pour recevoir en pleine figure la douche radieuse d'une batterie de projecteurs qui nous stoppèrent net, Julie et moi, tout aveuglés de gloire, comme sur la dernière marche de Cannes. Rien que de la lumière et une marée d'applaudissements qui montaient par vagues des entrailles du vieux cinéma. Puis la gloire s'éteignit et la salle s'alluma. Ils étaient tous là, debout, applaudissant, ceux de ma vie, tous. les Malocènes et la tribu Bentayeb, bien sûr, Suzanne, Sissou et tout ce que Belleville m'avait offert en amitié. Semel, Rognon, Merlan, Immuable Vieillard, le personnel au grand complet des éditions du Talion, évidemment, mais tous les copains du magasin où j'avais bossé naguère aussi, Théo et ses petits vieux à blouse grise, Léman lui-même, cet innocent salopard de Léman, et les magiciens de l'hôpital Saint-Louis. Marty qui m'avait sauvé de 1000 morts, Berthold, le chirurgien génial qui avait vidé mon pauvre corps pour le remplir d'un autre et qui, en m'applaudissant, acclamait son chef-d'œuvre. Mais d'autres encore, et des plus inattendus parmi ces autres. Le commissaire divisionnaire Coudrier en personne, sa mèche impériale sur le front, son gilet brodé d'abeilles sur son ventre. L'inspecteur Carrega à ses côtés, dans son blouson à col fourré de Normandie Nîmes. Tout cela, si familier qu'on sentait la présence de ceux qui n'y étaient pas, ceux qui n'y étaient plus. Stodgil, sans doute, perché quelque part dans les cintres, laissant planer sur nous son attentive rêverie de sentinelle. Tian, mon vieux Tian, mort pour que je survive, et le visage de Pastor flottant dans la transparence de maman. Qu'as-tu fait à maman, Pastor? Que lui as-tu fait? Tiens, maman est là aussi? Tu es venue, maman? Quand je disais que Jérémy était doué pour les surprises. Il n'applaudissait plus à présent. Ils brandissaient tous une flûte de champagne, et Jérémy montait l'allée. Vers nous, deux flûtes à la main, qu'il nous refila à Julie et à moi en me gratifiant du plus ingénu des sourires. « Bon anniversaire, du con! T'es chouette dans ton costard !» Puis, avec un sens inné de la cérémonie, pendant que la salle entonnait un « Happy et Tony Trump birthday », Jérémy nous fit signe de bien vouloir le suivre et de nous installer à la place d'honneur. Deux fauteuils qui nous attendaient au premier rang, entre la reine Zabo, ma patronne aux éditions du Talion, et le divisionnaire Coudrier, mon commissaire personnel. « Bon anniversaire, Malocène !» répéta ma patronne. « La surprise vous a plu ?» Or, la surprise façon Jérémy, c'est que ce n'était pas mon anniversaire. Cette fichue naissance, j'en avais interdit la commémoration dodéca mensuelle, et avec une si grande fermeté que je n'étais plus certain moi-même de m'en rappeler la date. Interdiction absolue, sous peine de beigne. Du coup, la tribu célébrait l'événement n'importe quand, plusieurs fois l'an si possible, et chaque fois c'était une vraie surprise. Et avec Gatsby, les années folles, le luxe, les paillettes, la décadence. Tableau d'une société huppée, écrit par Francis Scott Fitzgerald en 1925, on oublie l'anniversaire face aux soirées qui se succèdent en fêtes, soirées et autres extravagances. Le livre est adapté en 2013 par Baz Luhrmann avec DiCaprio dans le rôle clé.
La musique s'épanouit au soir de cet été dans la maison de mon voisin. Dans ses bleus jardins, des hommes et des jeunes femmes passèrent et repassèrent comme des phalènes parmi les chuchotements, le champagne et les étoiles. L'après-midi, à marée haute, je regardais ces invités plonger du haut de la charpente dressée sur son radeau, ou s'offrir au soleil sur le sable brûlant de la plage. Tandis que ces deux canots automobiles fendaient l'eau du détroit, remorquant des aquaplanes sur des cataractes d'écume. En fin de semaine, sa Rolls se transformait en autobus, charriant les invités de la ville au château, et vice-versa, de 9h du matin jusqu'à minuit passé, cependant que sa camionnette Ford s'affairait, telle un hanneton jaune, pour être à la gare à l'arrivée de tous les trains. Et les lundis, 10 domestiques, y compris un jardinier surnuméraire, travaillaient toute la journée, armés de lavettes, de brosses, de marteaux et de sécateurs, à réparer les ravages de la nuit précédente. Une fois au moins, par quinzaine, un détachement de décorateurs arrivait avec plusieurs centaines de mètres de toile et une quantité de lumière de couleur suffisante pour transformer le parc de Gatsby en un gigantesque arbre de Noël. Sur des tables, garnies de hors-d'œuvre luisants, s'entassaient des jambons épicés et cuits au four parmi des salades multicolores, comme des manteaux d'arlequin, des pâtés de porc et des dindes qu'un sortilège avait teintes de brun doré. Dans la galerie principale, on installait un bar muni de son appui-pied en cuivre et garni de gins, de liqueurs et de cordiaux, depuis si longtemps oublié que la plupart des invités étaient trop jeunes pour les distinguer les uns des autres. Vers 7 heures arrive l'orchestre, non pas un petit orchestre de 5 exécutants, mais une pleine fosse de hautbois, trombones et saxophones, de violes, de clarinettes, de piccolos, de tambours alto et basso. Les derniers nageurs sont rentrés de la plage et s'habillent dans les chambres. Les autos de New York sont garés, 5 de front, dans l'allée, et déjà les galeries, les salons et les vérandas s'égaient de couleurs, de cheveux coupés suivant d'étranges modes, et de châles qui éclipsent tous les rêves de Castille. Le bar fonctionne à plein rendement, et les cocktails flottent sur des plateaux dans le parc qu'ils imprègnent de leur parfum, si bien que bientôt l'air se met à vibrer de bavardages et de rires, d'insinuations nonchalantes, de présentations sitôt oubliées que faites, et d'enthousiastes rencontres entre femmes qui n'ont jamais connu leurs noms respectifs. Je crois bien que le premier soir où j'allais chez Gatsby, j'étais un des rares assistants qui eussent été invités. On n'y était point invité, on y allait sans plus de cérémonie. On montait dans des autos qui vous menaient à Long Island. Et, je ne sais comment, on se trouvait déposé devant la porte de Gatsby. Une fois là, on était présenté par quelqu'un qui connaissait Gatsby. Ceci fait, on se conduisait suivant l'étiquette de mise dans un quelconque Luna Park. Il y arrivait que, venu à la fête avec une simplicité de cœur qui tenait lieu de carte d'admission, on s'en retourna sans même avoir fait la connaissance de son hôte.
Bon anniversaire les petits indiens, bon anniversaire les petits cow-boys, venez chanter, danser avec tous vos copains, ici tout est permis, on s'amuse bien.
Et maintenant, passons à un anniversaire d'un genre bien différent, quoique d'une opulence certaine. Celui de cette malheureuse Lady L, que son âge canonique et ceux qui l'ont complimente ennuient terriblement.
La fenêtre était ouverte. Sur le fond bleu du ciel, le bouquet de tulipes dans la lumière de l'été la faisait songer à Matisse qu'une mort prématurée venait d'emporter à 80 ans, et même les pétales jaunes tombés autour du vase semblaient avoir obéi au pinceau du maître. Lady L trouvait que la nature commençait à s'essouffler. Les grands peintres lui avaient tout pris. Turner avait volé la lumière, Boudin l'air et le ciel, Monet la terre et l'eau. L'Italie, Paris, la Grèce, à force de traîner sur tous les murs, n'étaient plus que des clichés. Ce qui n'a pas été peint a été photographié et la terre entière prenait de plus en plus cet air usé des filles que trop de mains ont déshabillées. Ou peut-être avait-elle vécu trop longtemps. L'Angleterre célébrait aujourd'hui son 80e anniversaire et le guéridon était couvert de télégrammes et de messages dont plusieurs venaient du palais de Buckingham. Chaque année, c'était la même chose, tout le monde venait lourdement vous mettre les points sur les i. Elle regarda avec réprobation les tulipes jaunes, se demandant comment les fleurs avaient pu arriver jusqu'à son vase favori. Lady L avait horreur du jaune. C'était la couleur de la traîtrise, du soupçon, la couleur des guêpes, des épidémies, du vieillissement. Elle fixa les tulipes sévèrement et un doute rapide l'effleura, mais non, ce n'était pas possible. Personne ne savait. Une négligence du jardinier. La lumière jouait sur son visage où les marques de l'âge ne se trahissaient que par cette sécheresse teintée d'ivoire à laquelle elle ne parvenait pas à s'habituer et qui la surprenait chaque matin. C'était vraiment trop drôle. Elle n'avait pas prévu cela, il fallait bien l'avouer. Elle avait été pendant si longtemps admirée, adulée, qu'elle n'avait jamais vraiment admis que cela pût lui arriver à elle, que le temps pouvait aller jusque-là. Quelle brute tout de même! Il ne respectait rien. Elle ne se lamentait pas, mais ça l'agaçait. Chaque fois qu'elle regardait dans un miroir... Il fallait bien, parfois, elle haussait les épaules. C'était trop absurde. Elle avait beau savoir que ses yeux sombres, son nez à la fois délicat et fermement dessiné, on ne manquait jamais à son propos de parler de nez aristocratique, son sourire, le célèbre sourire de Lady L, forçait encore toutes les têtes à se retourner sur son passage. Elle savait fort bien que, dans la vie comme dans l'art, le style n'est qu'un suprême refuge de ceux qui n'ont plus rien à offrir, et que sa beauté pouvait encore inspirer un peintre, mais plus un amant. 80 ans, c'était incroyable. Et puis zut, dit-elle, dans 20 ans, il n'y paraîtra plus. Elle s'aperçut soudain que Percy était en train de lui parler. Il était planté là, avec sa tasse de thé, entouré de visages approbateurs et discrètement amusés. Percy avait un talent extraordinaire pour les clichés. Il parvenait même à s'élever à cette grandeur dans la banalité qui faisait parfois de ses discours une sorte d'admirable défi à l'originalité. « Une vie si noble, disait-il, cette époque brutale et vulgaire mérite de la connaître pour en être éclairée. Ma chère Diane, avec l'approbation de vos proches, je dirais même sur leur instance, je demande à l'occasion de votre anniversaire que vous m'autorisiez à écrire votre biographie. » Lady L ne répondit pas et lui tourna le dos. « Encore un ?» constata-t-elle en se mordant les lèvres, cette fois sur la tête d'un laidron qui était, si elle se souvenait bien, l'épouse de son fils Anthony, le clergyman. Elle regarda le chapeau fixement. La crème était vraiment parfaite. Quel merveilleux gâteau d'anniversaire, dit-elle en fixant le chapeau une fraction de seconde encore, avant de transférer son regard vers la pièce de pâtisserie posée sur le plateau d'argent. Il fallut ensuite dire quelques mots au raté de la famille, Richard, qui était lieutenant-colonel du régiment de la reine. La religion et l'armée liquidées, il ne restait plus que le gouvernement et la Banque d'Angleterre, et elles se dirigèrent résolument de leur côté. Romain Gary, Lady L. Alors on change complètement d'univers, la Chambre des Secrets est le célèbre deuxième tome de la saga Harry Potter et on y replonge une fois de plus dans cet univers de sorciers et de leurs coutumes un peu semblables aux nôtres mais toujours avec beaucoup d'étrangeté. Rowling, un peu comme Romain Gary, joue sur les codes et sur l'idée que l'on se fait de l'anniversaire un moment festif, plein de vie et de bonne humeur. Elle revisite ainsi cette tradition moldue en lui redonnant un nouveau souffle, un peu paradoxalement, à travers l'expérience d'un bal de fantômes et d'un anniversaire de mort.
Une promesse est une promesse, dit Hermione à Harry d'un ton autoritaire. Et tu as dit que tu irais à cette fête. Ainsi, à 7h du soir, Harry, Ron et Hermione passèrent sans y entrer devant la grande salle bondée, résistant à l'attraction des assiettes d'or et des chandelles qui scintillaient de toutes parts, et prirent la direction des cachots. Les trois passages qui menaient à l'endroit où se passait la fête de Nick quasi sans tête étaient éclairés par des chandelles fines et noires, dont la lueur bleuâtre leur donnait à eux aussi l'aspect de fantômes. Il faisait de plus en plus froid à mesure qu'ils avançaient. Bientôt, ils entendirent un son épouvantable, comme des centaines d'ongles crissant sur un énorme tableau noir. « C'est de la musique, ça ?» murmura Ron. Derrière un angle du couloir, ils virent soudain Nick quasi sans tête, qui se tenait dans l'embrasure d'une porte tendue de draperie noire. « Mes chers amis, dit le fantôme d'un ton lugubre, soyez les bienvenus. Je suis si content que vous soyez là. » Il ôta son chapeau à plumes et les invita à entrer en s'inclinant devant eux. Un spectacle stupéfiant s'offrit alors à leurs yeux. Des centaines de silhouettes translucides, d'une couleur gris-perle, glissaient autour d'une piste de danse bondée où d'autres formes spectrales valsaient au son terrifiant d'une trentaine de scies musicales jouées par des musiciens rassemblés sur une estrade tendue de noir. Au plafond, un lustre formé d'un bon millier de chandelles noires diffusait une lumière d'un bleu éclatant. Harry, Ron et Hermione virent de la buée sortir de leur bouche. C'était comme s'ils avaient pénétré dans une chambre froide. « Allons jeter un coup d'œil, » suggéra Harry qui voulait se réchauffer les pieds. « Fais attention de ne traverser personne, » dit Ron d'une voix inquiète. Ils s'avancèrent alors dans la pièce et passèrent devant un groupe de nonnes à la mine funèbre, un homme en haillons couvert de chêne et le moine gras, le joyeux fantôme de Poufsouffle, en grande conversation avec un chevalier dont le front était transpercé d'une flèche. Harry ne fut pas surpris de voir que le baron sanglant, l'horrible fantôme de Serpentard, couvert de taches de sang, restait seul dans son coin, ignoré par les autres spectres. « Oh non !» dit Hermione en s'immobilisant. « Vite, demi-tour, je ne veux pas parler à Mimi Géniard. »« Qui ça ?» dit Harry, tandis qu'il revenait précipitamment sur leurs pas. « Elle hante les toilettes des filles, au deuxième étage, » dit Hermione. « Les toilettes ?»« Oui, elles ont été inutilisables pendant toute l'année parce qu'elles n'arrêtaient pas de piquer des crises en provoquant des inondations. Je n'y vais jamais tant que je peux l'éviter. C'est terrible d'aller aux toilettes et de l'entendre gémir sans arrêt. Regarde, à manger, » dit Ron. De l'autre côté du cachot, une longue table était recouverte de velours noir. Ils s'en approchèrent d'un air gourmand, mais se figèrent soudain sur place avec une grimace horrifiée. L'odeur qui se dégageait du buffet était parfaitement répugnante. De gros poissons pourris s'étalaient sur les plats d'argent, entre des amoncellements de gâteaux brûlés comme du charbon. Il y avait aussi un énorme hachis grouillant de verre et un morceau de fromage couvert de moisissures verdâtres. Au milieu de la table, à la place d'honneur, se dressait un gigantesque gâteau en forme de pierre tombale, sur lequel était écrit en lettres noires « Sir Nicholas de Mimsey Porpington, mort le 31 octobre 1492. » Et on va retourner en 1954, où c'est l'anniversaire d'un autre grand personnage de la fantaisie britannique. Nous sommes dans la comté, et Bilbo Sacquet s'apprête à fêter son 111e anniversaire. Ainsi que les 33 ans de son neveu Frodon, avant que ces derniers ne partent avec l'anneau. C'est dans la bonne humeur caractéristique des Hobbits qu'a lieu la grande fête créée à l'occasion.
Bilbon Sacquet l'appelait réception, mais c'était en réalité toute une variété de distractions condensées en une. Pratiquement tout le voisinage était invité. Très peu de gens furent oubliés par accident, mais comme ils vinrent tout de même, l'oubli fut sans importance. De nombreuses personnes d'autres régions de la comté avaient été conviées, et il y en eut même d'au-delà les frontières. Bilbon reçut en personne les invités à la nouvelle porte blanche. Il distribua des cadeaux à tous et au-delà. Cet au-delà représentant ceux qui ressortaient par derrière et revenaient par la porte. Les hobbits font des cadeaux à autrui à l'occasion de leur propre anniversaire. Pas des cadeaux coûteux en général, et pas avec la même prodigalité qu'en ce jour, Mais ce n'était pas un mauvais système. En fait, à Hobbitbourg et à Lesaux, chaque jour de l'année était l'anniversaire de quelqu'un, de sorte que tout Hobbit de cette région avait une bonne chance de recevoir au moins un cadeau une fois par semaine, au moins. Mais ils ne s'en lassaient jamais. Puis, après le banquet, vint le discours. « Mes chers amis, » dit Bilbon, se levant à sa place. « Silence, silence !»« Mes chers Saquet et Beaufin, et mes chers Touc et Brandebouc, Fouille, Bouleau, Fouine, Sonnecoeur, Bolger, Sanglebuc, Bravet, Trougrisard et Firepied. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un jour spécial, car ce jour est celui de mon 111e anniversaire. J'ai un des 41 ans aujourd'hui. »
Merci beaucoup Héloïse, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On avait encore deux textes que nous mettrons sur le site de Transistor, mais pour l'instant, nous devons céder la place. Merci beaucoup Héloïse et Alice, et à très bientôt.
Merci.
Sur Transistor.
À très bientôt.
C'était « Les yeux ont des oreilles » et maintenant sur Transistor, c'est le quart d'heure d'histoire avec Transistorien qui va nous parler des deux corps du roi.
Bonjour Mathias.